Bonjour, c'est Raphaël Marchal qui vous parle. Je suis journaliste culinaire et je termine toujours mon assiette. Bienvenue sur À côté de la plaque, le podcast qui parle de tout, sauf de bouffe. On connaît des chefs, leur parcours, leur terroir, leurs produits, leurs plats signatures, mais est-ce qu'on les connaît eux ? Leurs envies, leurs phobies, leurs croyances, leurs faiblesses, leurs lubies, leurs secrets, leurs combats, leurs drôleries, leurs contradictions, rien n'est moins sûr. Alors asseyez-vous et écoutez, deux fois par mois, sur Business of Bouffe. Bonjour Stéphanie, et merci mille fois d'avoir accepté de répondre à mes questions. Comment vas-tu ?
Bah écoute, bonjour Raphaël, merci de m'avoir invité. Écoute, je vais pas trop mal en cette fin d'année, ça va, le moral est bon.
Bon, tant mieux. Normalement, le principe de ce podcast, c'est qu'on parle de tout sauf de bouffe, mais t'as quand même une actu dont je ne peux pas ne pas parler, donc on va démarrer avec MAM, ce petit trésor d'épicerie avec des petits plats emportés, des gâteaux, d'épicerie fine, etc. Est-ce que tu peux me raconter cette aventure ?
Bah, l'aventure MAM, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis quelques années déjà, de créer une boutique comme ça, un lieu de vie avec ma cuisine de cœur, ma cuisine de maman, ma cuisine d'épouse, tu vois, de famille, les petits plats réconfortants, inviter les gens dans ma cuisine et dans ma maison. Le confinement a juste accéléré les choses.
Ah, c'est vrai, bah, c'est une bonne chose alors.
Écoute, c'est une bonne chose. Et puis là, ça fait 15 jours qu'on est ouvert et je suis ravie de cette nouvelle aventure qui est géniale, qui est dans un registre complètement différent. Je joue à la marchande depuis quelques jours pour le plus grand bonheur.
Ouais. Voilà. Ouais, c'est clair que t'as ouvert au bon moment, puis c'est sublime l'emballage à la japonaise, un peu le torchon qui fait office de...
Ouais, on a interprété un peu ce furoshiki japonais pour l'emmener dans l'univers du baluchon. Ce qu'on est entre tradition et modernité ici, c'est mon envie, c'était de réinterpréter un peu le traiteur traditionnel qu'on a connu, mais tout en l'emmenant en 2021 dans une version plus moderne qui correspond à nos tendances de consommation. Donc ce petit clin d'œil au baluchon dans lequel nos mamies nous mettaient un petit quignon de pain ou une tarte m'amusait.
Ouais, c'est clair, c'est génial. Et tu disais que finalement, tu as rebondi encore plus vite que prévu. C'est ton caractère, ça, de prendre que le positif des sales situations et d'avancer ?
Ouais, moi, ouais, ça, je pense que c'est vraiment dans mon caractère, dans mon éducation, de jamais rien lâcher, de pas m'apitoyer sur mon sort, de pas considérer que les choses sont une fatalité, mais d'essayer de me servir des coups de la vie, des coups du sort, comme de merveilleuses opportunités, bah, pour essayer de rebondir, pour essayer d'inscrire des nouvelles choses et puis d'avancer.
Ouais. C'est clair. Alors maintenant, on va en apprendre, si tu le veux bien, un peu plus sur toi. Est-ce que tu peux me dire, selon toi, quelle est la plus belle qualité du monde chez les gens ?
La gentillesse, bien sûr, mais l'honnêteté. Moi, tu vois, j'aime les gens honnêtes, j'aime les gens francs, j'aime les gens droits, j'aime les gens qui savent te dire les choses de manière simple et sincère. C'est hyper important pour moi de pouvoir avoir confiance dans les personnes qui m'entourent et dans le monde. Et pour ça, je ne me repose que sur la sincérité et la franchise.
Ouais. Et donc, tu t'entoures que de gens qui ont cette qualité-là ?
J'essaie. Après, tu sais, c'est en apprenant à connaître les gens que... Mais c'est vrai que je suis une instinctive. Moi, tu vois, je fonctionne vachement au feeling avec les personnes que je rencontre. Et souvent, dans les 5 premières minutes, je sais si ça va le faire ou si ça ne va pas le faire. Et c'est vrai. Et c'est d'ailleurs un peu, je sais pas, c'est d'ailleurs parfois un peu mon défaut parce que tout de suite je sais si on va pouvoir faire un bout de chemin ensemble ou pas. Mais effectivement, c'est cette caractéristique, cette qualité que je vais aller chercher chez les gens. Et aujourd'hui, j'ai envie de m'entourer professionnellement, mais humainement aussi, hein, dans mes amis, etc., que de gens avec qui ça fait sens, tu vois, avec qui on partage des valeurs et une philosophie. Tu vois, à l'approche de la quarantaine, j'ai plus trop envie de perdre du temps avec des gens où humainement, c'est pas intéressant d'avancer.
Bon, après, on peut pas dire que t'es perdu beaucoup de temps dans ta vie, toi.
Non, j'en ai pas perdu beaucoup, mais les années passent quand même.
Hein. C'est clair. Stéphanie, qu'est-ce qu'on ignore de toi ?
Qu'est-ce qu'on ignore de moi ? On ignore peut-être que sous mon côté un peu dur, un peu insubmersible, un peu brut parfois, sous ce côté où on pourrait penser que je suis un rock, etc. On ignore que finalement je suis une hypersensible, je suis une grande émotive. Et qu'en fait, je surréagis beaucoup, moi. Je suis une excessive aussi, donc effectivement, quand je suis joyeuse, bah, je le suis puissance 10. Quand je suis triste, je le suis puissance 10 aussi. J'ai tendance à beaucoup m'inquiéter pour les gens que j'aime. Ça peut me ravager si les gens que j'aime, voilà, sont pas bien, quoi.
Mais ça, c'est une belle qualité, non? Ou parfois, ça te joue des tours?
Je pense que ça me rend fragile quelque part, tu vois, les gens le savent pas, mais je pense que si tu veux me déstabiliser, tu touches à mon univers proche, et c'est assez facile de me déstabiliser. Finalement, je suis moins dure que ce que je ne parais.
Ça m'étonne pas. est-ce que tu aimes qu'on t'aime?
Oui, bien sûr. Évidemment, je veux dire, j'aime l'idée que de pouvoir être consensuel parfois et que les gens puissent effectivement m'apprécier, m'aimer, reconnaître mon travail certes, mais aussi mes valeurs humaines. Après, là-dedans il y a un petit côté un peu bisounours pour le coup. Je sais aussi qu'à partir du moment où tu fais des choix, à partir du moment où t'es exposé, à partir du moment où tu prends parti, bah forcément t'es segmentant et tu peux pas plaire à tout le monde. Donc j'ai appris à vivre avec l'idée que je plais pas à tout le monde et que tout le monde ne m'aime pas et c'est pas très grave en fait.
Ouais, c'est clair. De quoi t'as peur ?
De quoi j'ai peur ? J'ai peur de me tromper. J'ai peur des fois de me dire est-ce que j'ai pas trop travaillé, est-ce que j'ai pas tout donné à ce métier, est-ce que je suis pas parfois passée à côté de certaines choses essentielles de la vie. Et en même temps, rapidement, je me rends compte que je suis mariée depuis 17 ans, j'ai 3 enfants merveilleux, que malgré tout côté vie de famille, ça se passe bien aussi. Mais j'ai peur de pas pouvoir rattraper le temps que j'ai donné quelque part à mon métier pendant de nombreuses années parce que pour arriver là où j'en suis aujourd'hui, il a quand même fallu s'investir à 2000% et je me dis ce temps-là sera jamais récupéré. Donc aujourd'hui, je fais en sorte de plus perdre une minute par contre. Tu vois, aujourd'hui, j'ai conscience qu'il y a des moments que je rattraperai pas et qu'il faut pas perdre une minute avec les gens que t'aimes.
Ouais. Ça c'est un peu la leçon qu'on a tous tiré de cette année un peu bizarre, non ?
Bah du confinement clairement parce que si tu veux les 15 premiers jours, quand on confine, pour être très honnête, j'ai pas détesté l'idée du tout. Hein. On sortait de l'ouverture de la scène où pendant 6 mois, on avait vraiment bossé très très dur. Et d'un seul coup, un break, d'être 15 jours à la maison dans mon appartement, finalement, que je me rends compte que je connaissais pas. Et voilà.
C'est ça,
j'ai découvert que j'avais une maison hyper sympa, en fait. Et ça, c'était chouette. Et puis, se lever le matin, finalement, avec pas d'objectif dans la journée, c'est-à-dire puisque tu sortais pas, en plus. Donc simplement de se dire, je prends le temps, tiens, qu'est-ce qu'on va manger ce midi, quelle bouteille on va ouvrir ce soir à l'apéro, quel jeu de société on va faire et quel film on va regarder avec les enfants ce soir. Donc j'ai découvert un truc que je connaissais pas et que j'ai aimé en fait.
Et tu dis les 15 premiers jours parce que quoi, après t'as
Parce qu'après on a reconfiné, enfin il a annoncé 15 jours et puis après si tu veux nous au bout d'un mois rapidement la réalité reprenant le dessus, la réalité économique de la scène reprenant le dessus, on s'est dit il faut se remettre au boulot, il faut se lancer dans la vente à emporter. Et puis by the way, c'est pas non plus dans mon caractère pour le coup, une fois qu'on a bien breaké pendant un mois, c'est super, mais j'avais besoin de retrouver la cuisine, j'avais besoin de retrouver des journées bien remplies quoi, parce que c'est quand même ma vie.
Si tu devais te débarrasser d'un de tes traits de caractère, ce serait lequel ?
Ouais, le côté sanguin et excessif, je suis quelqu'un de très sanguin dans mes réactions, donc je pars au quart de tour et c'est vrai que parfois j'aimerais être un peu plus tempérée, un peu plus pondérée parce que je suis une excessive en tout. Quand je fais la fête, je le fais excessivement. Quand je bois, je mange avec excès, je suis heureuse avec excès, je suis triste avec excès, je suis une excessive de la vie moi. Donc si je pouvais parfois être un tout petit peu plus pondérée, je pense que ce serait pas mal, mais en même temps c'est moi, je suis comme ça et j'ai du mal à me refaire.
Est-ce que t'es romantique ?
Ouais, j'aime bien. J'ai un petit côté un peu fleur bleue, hein. Moi, si tu veux, j'aime bien l'idée de la comédie romantique, tu vois. C'est des petits films que j'aime bien regarder de temps en temps, hein. Le Prince Charmant, tout ça. Donc oui, j'aime bien l'idée que mon mari m'offre des fleurs, s'occupe de moi. J'ai ce petit côté un peu gentiment désuet, hein.
Tu regardes quoi comme comédie romantique?
Ouais, je sais pas, j'ai dû voir 25 fois Dirty Dancing ou Coup de foudre à Notting Hill, tu vois. Enfin, c'est... Je suis fleur bleue.
Ouais, j'adore. Est-ce que t'aurais bien aimé être un homme?
Non, pas spécialement. J'évolue tellement dans un milieu d'hommes. J'aime profondément les hommes. Mais je suis pas sûre que j'aurais été à ma place en étant un homme parce que tu vois, j'ai la chance d'être maman, d'avoir 3 enfants et un homme pourra jamais vivre ça, tu vois. Donc je suis assez bien dans ma vie de femme, en fait.
Bah oui, il faut, hein. Qu'est-ce qui te fait pleurer?
Qu'est-ce qui me fait pleurer? Mon fils, tu vois, mon fils, la semaine dernière, mon petit de 3 ans m'a fait pleurer. On était en train de se câliner comme ça et puis il a posé sa main sur ma joue et du haut de ses 3 ans, il m'a regardé, il m'a dit « T'inquiète pas maman, tu sais, Arthur est là ». Et ça m'a fait pleurer parce que j'ai trouvé ça tellement tellement mignon, tellement désarçonnant à ce moment-là, tellement tendre que tu vois, ça me fait fondre, c'est capable de me faire pleurer.
Ça, t'es un peu une pub pour la femme moderne qui a des enfants, qui bosse dur, qui arrive à profiter en même
ouais,
temps.
Ouais, c'est un peu ça, écoute, c'est un peu ça, c'est un peu ouais. Ça. Mais j'aime bien, ouais. Tu sais, cette idée, hein, j'aime bien cette idée aujourd'hui, c'est une de mes plus grandes fiertés et c'est d'avoir quand même, tu vois, même professionnellement, tout pourrait s'arrêter là, je considère que j'ai une vie vraiment bien remplie, géniale, et je suis arrivée à mes objectifs. Et parallèlement à ça, j'ai pas dû sacrifier ni ma vie de femme, ni ma vie de famille. Alors, ça a été dur à concilier, mais tu vois, aujourd'hui, c'est le truc dont je suis le plus fière. Mes 3 enfants, mon mari, la vie qu'on peut avoir, et c'est génial. Aujourd'hui, je suis complètement épanouie et en phase avec cette vie-là qu'on a créée.
Hein. Ouais. Tout ça et une ouverture en 2020, ce qui est quand même sacré.
Ouais. Une en 2019 et une en 2020. Ouais, c'est pas mal, le rythme est bon. Hein.
C'est clair. Est-ce que tu t'aimes?
Non, je m'aime pas beaucoup. Je m'aime pas beaucoup parce que j'ai tendance à voir justement en moi ces traits de caractère qui des fois m'insupportent. Hein. Tu vois, des fois je me dis, t'es chiante, t'es trop tout le temps à vouloir que tout soit parfait, à vouloir tout maîtriser, à vouloir que tout soit comme toi, tu penses qu'il faut que ce soit, et en même temps, c'est ce qui fait que j'en suis là, mais ouais. C'est cette ambivalence, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est mes qualités, mais à la fois, c'est aussi parfois des défauts de vouloir comme ça tout contrôler, tout maîtriser, et quand parfois, je rentre dans ce côté excessif ou sanguin que je peux avoir, je peux me détester des fois avec le recul. Hein.
Mais pas tout le temps.
Non, pas tout le temps, après, je préfère que les autres m'aiment. Enfin, tu vois, je crois pas. Moi, je suis pas du tout nombriliste. Je veux dire, je prends jamais 5 minutes pour me poser la question. Est-ce que je m'aime? Est-ce que ce que je fais c'est bien? Est-ce que le chemin parcouru? Enfin, tu vois, je suis pas comme ça. Moi, je regarde plutôt les autres et je regarde vers l'avant. Après, j'aime l'idée de savoir que ma famille m'aime et que je suis importante pour eux et tout ça. C'est important pour moi. Mais moi, je prends pas trop le temps de m'analyser et de m'aimer en fait.
Ouais, de te poser la question. Est-ce que t'es religieuse?
J'ai été élevée, oui, dans une famille, si tu veux, catholique, classique, pas spécialement pratiquante, mais avec des valeurs de religion. Donc aujourd'hui, je suis croyante, mais je pratique pas spécialement. Je pense que la religion et la spiritualité, toutes les religions et toutes les spiritualités, sont des choses très personnelles et qu'il n'y a pas forcément besoin de les afficher ou de, tu vois, c'est vraiment entre toi et puis ce qui se passe là-haut, quoi.
Ouais, exactement, c'est pour toi.
Ouais, c'est pour toi, donc c'est pas un truc, enfin, tu vois, pour moi, c'est vraiment un truc hyper personnel et t'es pas obligé forcément de pratiquer et d'afficher ça pour que ce soit reconnu, enfin, tu vois, c'est vraiment quelque chose d'hyper, hyper perso,
ouais. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter ton meilleur échec, celui qui t'a apporté le plus de belles choses par la suite?
Je pense que c'est le dernier en date, c'est le départ du Prince de Galles. Je pense que c'est la façon dont ça se termine comme ça au bout de 7 ans et puis 2 étoiles Michelin de manière un peu rapide, un peu brutale, avec une situation qu'à la fois je comprends, mais qu'à la fois ça a été, avec le recul, la meilleure chose qui me soit arrivée. Donc, c'est une forme d'échec, si tu veux partir au bout de 7 ans d'une maison dans laquelle tu t'es vachement investi, en ayant rempli la mission que tu t'étais juré de remplir, d'emmener la maison à 2 étoiles Michelin. Tout s'est fait pour l'équipe et pour moi de manière très brutale quand même. Et j'aurais pu considérer, enfin, tu sais, à ce moment-là, il y a 2 possibilités. Hein. Soit tu t'écroules, soit tu te dis bah ouais non en fait c'est une opportunité pour rebondir et pour aller plus haut. Et honnêtement, ça l'a été parce que ça a été une bouffée d'air incroyable. Et puis je me suis lancée dans la scène et voilà. Et c'était il y a 18 mois. Et j'aurais pas la scène, j'aurais pas MAM, je serais pas si bien en phase avec moi-même aujourd'hui si c'était pas arrivé dans ma vie.
C'est dingue, c'est beau. Hein. Mmh. Peut-être qu'en fait, il y a des gens qui ont pas assez connu l'échec.
Peut-être, mais après, je pense aussi, tu sais, que c'est des histoires quand même de caractère, hein, parce que fallait quand même avoir, tu vois, à ce moment-là. Les reins solides et puis être hyper bien entouré par ta famille pour te dire attends je vais rebondir, tu vois, il y a quand même des choses un peu difficiles, donc encore une fois ma force de caractère fait que c'est un atout dans la vie. Pour le coup, je me dis bon bah c'est pas grave, en vrai on est en bonne santé, mes enfants vont bien, etc. Tout le reste c'est anecdotique. Après, si tu veux, moi je suis une besogneuse, je compte énormément sur mon travail et je me dis qu'avec de la volonté, du travail et de la passion, en fait tu peux tout faire, donc partant de ce principe là c'est une grande force.
Et avec tout ça, tu arrives à me dire que tu t'aimes pas trop, quoi.
Non, mais je m'aime pas trop, je me déteste pas non plus, tu vois, mais je suis vraiment pas dans l'autocul, hein, tu vois, je suis...
Si t'étais pas toi et que tu te rencontrais, tu te dirais, putain, la meuf,
ouais, moi, je pense elle gère. Que, ouais, je pense que je dirais que oui, la meuf, elle gère pas trop mal et voilà. Mais j'aimerais bien être ma copine, hein, en vrai.
Ouais, c'est clair. Alors, ce sera ma dernière question parce que je sais que tes minutes sont comptées. Est-ce que tu peux me raconter avec autant de détails que tu veux ton gueuleton idéal?
Gueuleton idéal. Oh là là. Alors déjà, les gens que j'aime autour de la table, parce que pour moi la table, si tu veux, je suis pas capable de faire un gueuleton toute seule, tu vois. Ça m'intéresse. Enfin, je te dis ça et en même temps avant-hier. J'étais un peu fatiguée en rentrant le soir, je me suis ouvert une bonne bouteille et j'ai picolé un peu toute seule, mais quand même la table, c'est hyper important d'avoir les gens que j'aime. Le gueuleton pour moi, c'est vraiment synonyme du truc où tu vas kiffer ensemble. Donc il faut quelques potes autour de la table, il faut évidemment une jolie bulle pour démarrer, un truc un peu vif, tu vois, un peu ciselé, plein de fraîcheur. Quelques huîtres, tu vois, j'ai une maison en Normandie, donc on aime bien aller à Veules-les-Roses chercher les huîtres qui sortent comme ça direct pleine mer. Quelques bulots, quelques araignées de mer, tu vois, tout ça devant un bon feu de cheminée. Et puis ensuite une belle pièce de bœuf, tu vois, une belle pièce de bœuf à rôtir avec une béarnaise légèrement montée avec un peu d'huile d'olive, un clin d'œil à la Provence qui m'est chère. Et puis comme on est en saison, on pourrait y jeter une petite poignée de truffes hachées. Le tout arrosé par un joli rouge avec, tu vois, style un domaine des Tours ou un château des Tours ou pourquoi pas un Rayas, les vins d'Emmanuel Reynaud que j'adore à la folie. Et puis ensuite, on terminerait, tu vois, simplement avec quelques fruits. On démarre les clémentines, etc. Et puis ça pourrait être simple avec un peu de musique, hein, c'est hyper important. J'aime bien qu'il y ait toujours un petit fond de musique. Ouais. Et puis ça pourrait partir à danser un peu, puis à rouvrir une bulle, et puis ça enchaînerait sur le dîner après, forcément.
Après, ouais. Oh, magnifique. Ouais. Bah écoute, tu me donneras l'heure et l'adresse. Et bah Stéphanie, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre
à ton invitation. J'ai été ravie de cet échange.
Bonne fête.
Et bah ouais, joyeux Noël. Plein de bonnes choses à toi, à tout le monde.
Ouais, joyeux Noël.
Et puis rendez-vous en 2021 pour une année que j'espère. Un peu plus funky et pleine de belles choses pour tout le monde.
Ouais, c'est tout ce que je nous souhaite. Salut Stéphanie, merci.
Salut Raphaël, merci.
J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pourrez tous les retrouver sur Business of Bouffe 2 fois par mois. D'ici là, continuez à bien manger en parlant d'autre chose.